deuxième temps de notre série « La guerre et ses raisons » pendant laquelle nous explorons les raisons des guerres des 19e et 20e siècles. Après avoir reçu hier Sylvain Venner qui nous parlait de guerre française en Annam et avant demain de recevoir Timothy Snyder qui dialoguera avec Christian Ingrao à propos de leurs deux livres qui viennent tout juste de sortir sur la conquête de l'Est de l'Europe par les nazis et jeudi donc nous recevrons également Saul Friedlander, nous avons le grand plaisir de recevoir ce matin le grand historien du nazisme Yann Kershaw, professeur à l'université de Sheffield qui publie au Seuil une grande synthèse historique sur le continent européen, de la veille de la Première Guerre mondiale au lendemain de la Seconde. Il y analyse les mouvements politiques profonds issus du premier grand conflit mondial, les réactions des populations, la vigueur des conflits entre classes sociales, l'explosion des nationalismes et des revendications territoriales et ethniques, ainsi que les nombreux soubresauts du capitalisme avant et après la grande crise de 1929. Il sera accompagné par Xavier Combes, que nous remercions d'avance pour la traduction de ses propos. Bonjour Xavier Combes et bonjour à vous Yann Kershaw, merci d'être avec nous. La première chose que je voulais vous demander, c'est que vous êtes un grand historien du nazisme et vous vous lancez là pour cette Europe en enfer 1914-1949, publiée aux éditions du Seuil. Vous vous lancez dans une grande synthèse historique qui déborde, pourrait-on dire, à la fois de la thématique qui est la vôtre, qui est centrale dans votre œuvre, mais également de l'espace géographique qui était celui sur lequel vous aviez ordinairement travaillé. Pourquoi ce choix d'une grande synthèse ?
L'essentiel qui préside à ce choix, c'est que je voulais comprendre mieux mon propre continent. J'ai passé beaucoup de temps à étudier l'Allemagne nazie. Par conséquent, j'ai ressenti le besoin de faire une étude panoramique du continent pour comprendre d'où viennent nos problèmes actuels. Ainsi, à l'invitation de la maison d'édition Penguin, je me suis lancé dans l'étude de cette période qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'à la période actuelle. Et en réalité, j'écris pour moi-même, pour mieux comprendre les choses. Et en l'occurrence, je veux mieux comprendre l'histoire de l'Europe dans ce siècle tragique.
Ça veut donc dire que vous devez vous plonger dans des bibliographies, dans des auteurs qui traitent de périodes plus anciennes, mais aussi d'espaces géographiques plus lointains que la simple Allemagne nazie. Et donc vous allez puiser dans les travaux de vos collègues pour pouvoir justement articuler votre vision, pourrait-on dire, de cette longue histoire de l'Europe.
Yes, this can't be a research book in the way that my.
Ce n'est pas un livre de documentation en recherche au même titre que mes autres livres. En effet, comme vous le dites, j'ai dû faire beaucoup de recherches. J'ai dû me pencher sur des centaines, voire des milliers d'ouvrages de mes éminents collègues qui ont travaillé sur d'autres sujets que le mien. Alors évidemment, ce n'est pas la somme des histoires nationales que j'ai voulu rassembler en une synthèse. C'est important de tout lire, digérer, puis interpréter pour essayer d'avoir une vue globale de l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Ainsi, sans les travaux réalisés par d'innombrables collègues, doctorants et autres, eh bien, un tel travail de synthèse n'aurait pas été possible.
Alors, nous avons eu, il y a quelques années de cela, c'était plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, une grande synthèse de ce type, aussi rédigée par un historien britannique, il s'agissait en l'occurrence d'Eric Hobsbawm, qui s'appelait « L'âge des extrêmes ». Si vous vouliez dire à nos auditeurs la différence que vous percevez entre le travail que vous avez mené pour l'Europe en enfer et celui d'Eric Hobsbawm, quel est-il ? Parce que ça a eu un grand succès d'édition dans notre pays.
Hobsbawm était une étude brillante. Je le connaissais très bien, d'ailleurs. J'étais un de ses admirateurs. Il a écrit 4 volumes. Il part de la révolution industrielle pour aller jusqu'à l'échec du communisme en 1990 et l'âge des extrêmes est une synthèse qui se concentre sur la période qui va de 1914, je dirais même 1917, jusqu'à 1990 avec la chute du communisme. Son travail porte sur la lutte entre le capitalisme et le communisme, et à terme, la défaite du communisme. Il a donc écrit sur ce qu'il appelle le 20e siècle court, 1917-1990. Je ne pense pas que l'on puisse réduire l'histoire de l'Europe du 20e siècle à ce conflit, bien qu'il ait été très important. Dans ma synthèse, je ne m'attache pas simplement au conflit entre le conflit et le communisme. La crise du capitalisme, c'est l'un des 4 éléments que j'exploite pour expliquer le 20e siècle avec cette période critique au sein même du 20e siècle. Mais j'essaye d'aller au-delà de cette crise. Par ailleurs, je voulais aller au-delà de 1990-90 et la césure indubitable dans l'histoire de l'Europe. Mais on ne peut pas terminer une histoire moderne du XXe siècle européenne à la fin 90. Donc moi, je vais me pencher sur la période qui va jusqu'à l'ère actuelle.
Si vous voulez bien, Yann Kershaw, faites-nous entrer dans l'atelier de Yann Kershaw. Quand on travaille sur un tel sujet, sur une telle ambition, écrire l'histoire de l'Europe au XXe siècle, comment travaille-t-on? Comment avez-vous travaillé? Vous avez lu vos collègues, vous nous avez dit. Est-ce que vous aviez des idées qui précédaient le travail d'accumulation du savoir que vous avez fait en lisant ces livres? Ou est-ce que vous avez fait surgir, d'une certaine façon, vos questionnements et les grandes lignes de force de l'Europe en enfer de ces lectures? Est-ce qu'il y a une idée préconçue ou est-ce que ce sont vos lectures qui vous ont donné les 4 lignes de force de votre livre « L'Europe en enfer » ?
In a way, it's a combination of both things.
Eh bien, les deux, mon commandant. Lorsque l'on écrit un ouvrage d'histoire, il faut d'abord avoir une certaine idée de ce que l'on veut faire. Donc on a des idées préconçues. Il y a un certain nombre d'idées auxquelles on veut s'attacher dans l'écriture. Ces idées sont ensuite modifiées, parfois transformées à la lumière des lectures et des recherches entreprises. Et en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis parti d'un certain nombre d'idées. Ces idées ont perduré dans mon esprit pour certaines d'entre elles, ces 4 thèmes d'interprétation que j'ai développé avant de me lancer dans l'écriture. Et puis, au cours de l'écriture, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que j'ai appris d'innombrables choses sur différents aspects de l'histoire. Et par ailleurs, pendant de nombreuses années, j'avais travaillé sur l'histoire de l'Allemagne au cours de cette période, en particulier l'ère hitlérienne. Et à bien des égards, l'histoire de cette période que je couvre dans l'Europe de l'enfer est couverte par l'Allemagne. Donc, mon travail sur l'Allemagne m'a beaucoup éclairé pour l'écriture de cet ouvrage-ci, qui couvre une période, donc 1914-1949, de l'histoire de l'Europe.
Vous nous avez dit qu'il y avait 4 thèmes que vous développiez dans ce travail, 4 lignes de force de votre travail sur cette Europe entre 1914 et 1949. Vous pouvez nous les développer maintenant, s'il vous plaît, Yann Kershaw?
Les 4 thèmes que j'étudie. Avant de vous les dire, je voudrais dire que c'est l'interaction entre ces 4 thèmes qui est particulièrement cruciale. Les voici. Tout d'abord, l'explosion du nationalisme ethnique. Une définition raciale, bien souvent, et cela est lié à l'antisémitisme. Deuxièmement, l'accentuation des conflits aux frontières,
which were enhanced then through the settlements at Versailles,
avec
and Saint-Germain
Saint-Germain, le Trianon, juste après la Première Guerre mondiale. Ensuite, les conflits de classe, avec une forme alternative de gouvernement en Union soviétique. Et enfin, quatrième thème, une crise du capitalisme profonde et durable. Donc, dans l'après-guerre et ensuite la déflation à partir de la crise de 29 ou de 1930. Ces quatre thèmes interagissent les uns avec les autres. Et le point de vue général, c'est que chacun des éléments de la crise, dans son expression la plus aboutie, en Allemagne, nous montre que, sans surprise, l'Allemagne, c'est le pays qui cristallise tout cela et qui ensuite nous amène à la Seconde Guerre mondiale avec des dégâts encore plus importants, si c'était possible, que la Première.
Alors, ce qui est intéressant en vous lisant, puisque c'est un livre sans notes, il faut le dire à nos auditeurs, c'est un livre qui permet de lire de façon très très facile, pourrait-on dire, votre vision de cette histoire de l'Europe, même s'il y a une très forte bibliographie à la fin du livre. Ce qui est intéressant, c'est de pointer vos divergences, vos différences avec certains des historiens de ces périodes. Si on prend par exemple le cas de l'Allemagne dont vous venez de parler, de la Première Guerre mondiale, vous mettez l'accent sur la responsabilité particulière, comme vous dites, de l'Allemagne dans le premier conflit mondial, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avions l'œuvre de Christopher Clark qui s'appelle Les Somnambules, qui, lui, d'une certaine façon, minimisait le rôle de l'Allemagne dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Yann Kershaw?
Donc, il n'y a pas de notes, vous avez dit. En fait, ce n'est pas une décision que j'ai prise. À vrai dire, ça a été à mon insu ou à l'encontre de mon choix. C'est Penguin qui a dit il n'y aura pas de notes dans ce livre. Bon, je n'ai fait qu'obéir. Il y a 2 ou 3 notes de pied de page à titre personnel, c'est tout. Mais pour répondre à la question plus importante, qui est celle de la différence d'interprétation entre moi et Christopher Clark, Chris Clark, c'est un très bon copain. Hein, et je crois que son livre, Les Sommes est un travail absolument admirable. Mais je m'inscris en faux quant au rôle fondamental de l'Allemagne dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale et les événements qui ont mené à la Première Guerre mondiale. Chris Clark, lui, veut répartir les responsabilités. Et donc, il voit les grandes puissances à l'œuvre. Et puis, au bout du compte, il y a une série de hasards et d'accidents, des mauvais calculs, des erreurs qui mènent à la guerre en août 1914. Moi, je suis avec cela dans une certaine mesure. C'est vrai que toutes les grandes puissances ont participé de ce processus. Mais moi, je veux que se démarquent les responsabilités de 3 grandes puissances, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, avec la France et la Grande-Bretagne qui jouent des rôles mineurs. Et de ces 3 grandes puissances, j'explique que le rôle de l'Allemagne est la plus grande. En effet, l'Allemagne a pris un certain nombre d'actions en juillet 14. Et en particulier, de ce point de vue-là, je fais référence au chèque en blanc du 6 juillet 14, où l'Allemagne a donné carte blanche à l'Autriche pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et l'Allemagne soutiendrait sans condition l'Autriche. Et mon argument, c'est que sans ce blanc-seing, sans cette carte blanche, eh bien, la sévérité de l'ultimatum autrichien envers la Serbie n'aurait pas été possible. Et sans cet ultimatum, dans la forme qu'elle a prise, très dure et très draconienne, eh bien, la Russie n'aurait pas été amenée sur le terrain une fois que la Russie est arrivée à côté de la Serbie. Et à ce moment-là, la guerre européenne était certaine, alors qu'elle n'était pas du tout certaine avant les dernières semaines de juillet 14. Donc, Vous voyez, dans cette série d'actions, je ne parle pas de somnambule, moi, mais je dis qu'il y a des erreurs qui ont été faites dans la toute dernière phase, à mon avis seulement. Donc, il y a différents niveaux de responsabilité, et à mon avis, ces responsabilités incombent particulièrement à l'Allemagne.
Alors, j'étais étonné, à la page 73 de cet ouvrage, vous faites un développement sur ce qui arrive, évidemment, pendant cette Première Guerre mondiale, du côté de l'Empire ottoman et des Turcs et de la Turquie, et donc de cet empire ottoman. Et vous mentionnez bien, effectivement, ce qu'on appelle communément le génocide des Arméniens, mais vous ne le mentionnez pas comme un génocide, Yann Kershaw. Est-ce que c'est un choix ou c'est parce que vous dites les massacres d'Arméniens, de 600 000 à 1 million d'Arméniens pendant la Première Guerre mondiale et en 1915. Est-ce que c'est un choix de ne pas avoir choisi ce terme de génocide ou est-ce que c'est un accident d'écriture d'une certaine façon ?
Non, ce n'est pas un choix délibéré. Le mot génocide est très connoté. On peut l'interpréter de bien des façons. Moi, je voulais éviter ce débat sur ces massacres et de savoir s'il s'agissait ou non de génocide. Quoi qu'il en soit, le nombre de victimes est de l'ordre du génocide. Ça, je ne vais pas discuter de cela un instant, mais il est possible d'utiliser d'autres termes pour décrire ces horreurs sans avoir recours au terme génocide qui porte sur tout un tas de problèmes très particuliers, notamment si l'on considère la mort d'environ 1 million d'Arméniens à cette époque. Donc, maintenant, les choses ont bien élucidé, on a fait beaucoup de recherches sur cette question, et c'est vrai que ces massacres sont d'une ampleur invraisemblable. Moi, je n'apprécie pas ce débat qui porte sur un terme, s'agit-il ou non d'un génocide. Moi, je préfère mettre en évidence l'horreur et le désastre qui a eu lieu avec la mort, je le répète, d'environ 1 million d'Arméniens à cette époque.
Alors, vous expliquez bien comment cette première guerre mondiale s'auto-nourrit d'une certaine façon. Vous avez une expression dans la traduction qu'il faut saluer d'ailleurs, la traduction du Seuil, des éditions du Seuil, et en particulier de Aude de Saint-Loup et de Pierre-Emmanuel Dosa. Il faut la saluer, cette traduction. Vous dites « La tuerie pendant la Première Guerre mondiale acquit bientôt un élan propre ». Ce qui est une formidable formule pour montrer comment, au bout du compte, cette barbarie s'est mise en route et a permis de broyer autant de millions de personnes sur le continent européen, Yann Kershaw.
Oui, s'agissant de la traduction, bien que mon français soit lamentable, je peux lire le français et je dois dire que j'ai lu mon livre en partie en français et moi-même je voudrais conclure aux félicitations que vous avez adressées aux traducteurs. S'agissant maintenant de la violence, c'est vrai que la Première Guerre mondiale a produit une spirale de violence qui s'est manifestée de différentes façons. Il y a un élément que l'on semble ignorer en Occident, c'est qu'à l'est de l'Europe, sur le front oriental, là, il y avait beaucoup plus de fluidité que dans les tranchées à l'ouest. Et là, il y avait d'ores et déjà des signes d'une violence envers les civils, parce que sur le front occidental, comme on le sait, les actions allemandes contre les civils en Belgique ont déclenché l'horreur qui a consisté à sélectionner des groupes de civils pour les massacrer. Et ça, évidemment, ça a été encore plus terrible dans la Seconde Guerre mondiale. Mais pour revenir au front oriental, il est clair que les Juifs ont été l'objet d'un traitement particulier par les Russes lorsqu'ils ont envahi une partie de l'Autriche-Hongrie et il y a d'autres minorités ethniques qui ont été maltraitées par l'armée russe. Donc, on voit cette spirale de violence qui démarre. Et à la fin de la guerre, on voit qu'il y a des groupes entiers de population, des pans entiers de population, notamment dans l'Allemagne, dans l'armée allemande, qui n'étaient pas prêtes à arrêter les hostilités. Ils voulaient continuer. Et donc, il y avait cette forme de violence qui a perduré. Et ça a été créé par la guerre elle-même, sans parler, évidemment, des événements qui ont lieu en Russie, où la révolution a immédiatement donné lieu à une guerre civile terrible et l'Empire russe a fait plus de victimes que pendant la Première Guerre mondiale. Donc cette spirale violente générée pendant la Première Guerre mondiale, on l'a retrouvée dans les années d'après-guerre aussi.
Alors c'est justement extrêmement intéressant parce que à un moment vous expliquez que tout essai pour résumer ce que vivre la Première Guerre mondiale signifiait ne saurait être au mieux qu'impressionniste. Vous, d'une certaine façon, vous dites que l'historien a du mal, comme l'écrivain peut-être à la différence de l'écrivain qui parfois parvient à le faire, eh bien, a du mal à rendre une telle barbarie, une telle violence déchaînée dans les tranchées et ailleurs, sur le front oriental comme sur le front occidental de cette Première Guerre mondiale. C'est un constat que vous faites, c'est difficile de rendre justement cette violence, ces déchaînements de violence et de barbarie.
It's of course difficult if not
difficile voire impossible de dépeindre quoi que ce soit si on n'était pas sur place.
To describe fully
comment pleinement décrire l'horreur de ces événements. Je me souviens, j'ai été interviewé à New York par quelqu'un qui avait été sur les lieux du débarquement sur les plages de Normandie. Je venais de voir un film qui s'appelait « Il faut sauver le soldat Ryan » qui démarre par des scènes horribles qui se passent en Normandie en 1944. Et j'ai raconté cela et cet homme m'a dit « J'étais là, hein. » dit-il. Et je peux vous dire que il faut sauver le soldat Ryan, c'est de la bibine par rapport à ce que j'ai vécu sur les plages de Normandie. Mais pour répondre à votre question, je crois qu'il est du devoir de l'historien de dépeindre aussi clairement et aussi explicitement que possible les événements qui ont lieu, l'horreur qui envahissait tous les aspects de la vie à ce moment-là. Et certains des témoignages que l'on a pu recueillir de soldats rendent bien cette image, cette sensation. Et dans mon ouvrage, L'Europe en enfer, je n'essaye pas d'apporter des notions représentatives, mais j'essaye d'être fidèle aux témoignages de soldats sur différents fronts, à différentes époques. J'essaye de donner une impression de l'horreur auquel ces personnes faisaient face.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Ouvre la nuit, un éclair lui, un homme la mort suit, un corps tombe dans la tombe, hécatombe sans un bruit, fille folle que l'on vole, que l'on viole et qui crie meurtre à femme d'une femme qui rend l'âme s'aime à qui une roule dans la foule goule contre folie. Dans un autre, l'on est ventre, quelqu'un entre, c'est ma fille. Quand variole, l'on s'envole, l'on s'affole, frénésie, vie de poche et sacoche.
La transcription et le chant par Florel dans les années 30, grande chanteuse des années 30, et bien en l'occurrence, vous l'avez reconnu, de la chanson de Maki de l'opéra de Katsu, de Kurt Weill et de Bertolt Brecht pour justement avancer dans cette Europe en enfer avec Yann Kershaw. Et après la Première Guerre mondiale, vous nous dites des choses très intéressantes, Yann Kershaw, sur la sortie de la Première Guerre mondiale et en particulier sur ce mélange explosif, dites-vous, de la sortie de la Première Guerre mondiale qui mélange le nationalisme ethnique, les conflits territoriaux et la haine de classe. Tout cela fait une recette explosive, dites-vous.
Yes, that did create this explosive cocktail.
Tout à fait, un mélange explosif. Tous ces éléments étaient présents avant même le début de la Première Guerre mondiale. Ils étaient présents depuis l'industrialisation. Mais la Première Guerre mondiale n'a fait qu'accentuer ces tensions entre ces éléments. Et cela s'est mélangé aux nouveaux éléments qu'était la crise du capitalisme déclenchée par la guerre. Et il y avait un autre facteur nouveau, c'était les révolutions bolcheviques en Russie, qui, elles, ont signifié que le conflit de classe prenait une autre dimension. Tout cela, ensemble, a produit une sorte de cocktail, un mélange explosif. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour que on assiste au prélude du second conflit, autrement dit la Seconde Guerre mondiale.
Oui, vous dites aussi que c'est à ce moment-là que l'Europe pose les bases d'une dangereuse triade idéologique, dites-vous, le communisme, le fascisme et la démocratie libérale, Yann Kershaw.
Yes, this triad really developed out of the war.
Cette triade résulte de la guerre. Au préalable, il y avait eu des mouvements socialistes qui n'avaient pas pris suffisamment de terrain. Puis là, on se retrouve avec une révolution communiste en Union soviétique. La révolution bolchevique a en fait accentué les fractures idéologiques et les conflits de classe. D'une part, il y avait des pans de la population, là je parle des pauvres, des ouvriers, et en Europe de l'Est, il y avait les paysans qui étaient attirés vers le bolchevisme parce qu'ils recherchaient évidemment une meilleure vie, ce que promettait le bolchevisme. Mais il y avait d'autres pans de la classe ouvrière qui étaient repoussés par le bolchevisme. Donc au sein même des mouvements ouvriers, il y avait des clivages parmi la gauche. Et il y avait cette crainte que l'on ressentait dans la bourgeoisie partout en Europe, que l'on ressentait également chez les propriétaires terriens. Et là, il y avait tout le potentiel pour que se dégage du populisme d'une nouvelle forme. Et ça, ça a été bien soutenu. Et en Italie, notamment, le fascisme de Mussolini a pu arriver au pouvoir 3 ans après la fin de la guerre. Et on se retrouve alors avec cet effet double d'un modèle différent de société et de politique, un clivage fatal, funeste au niveau de la gauche et un élargissement du potentiel que pouvait gagner l'extrême droite par rapport notamment à la classe ouvrière.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous savez qu'il y a eu des débats assez nombreux dans l'historiographie française de sortie de sur la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale, et en particulier sur ce terme que vous utilisez vous-même, même s'il est mis entre guillemets dans votre livre, ce terme qui a été inventé par Georges Mossé, le terme de brutalisation. Vous dites que les sociétés, et vous êtes vous tentez de d'affirmer cela après Georges Mossé, les sociétés qui sortent de la Première Guerre mondiale sont en partie pacifistes, mais qu'elles sont surtout marquées par cette violence de la guerre et qu'elles sont brutalisées. Et vous nous donnez des exemples qui sont extrêmement intéressants, effectivement, et surtout à l'est de l'Europe, ce qui est plus nouveau dans ce que nous connaissons justement de cette période-là.
George Moss's
cette notion de brutalisation évoquée par Georges Mossé est tout à fait juste en ce qu'elle s'applique à certains secteurs de la population. Donc, mais si on généralise, ce n'est pas exact, parce qu'on assiste à de nombreuses réactions différentes à la Première Guerre mondiale. Et la réaction qui prévalait le plus au sein des puissances belligérantes, c'était le désir de paix, le désir de sécurité, un retour à la patrie. On assiste à cela en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Et le pacifisme devient pendant un moment un élément fort du débat politique. Mais au-delà du pacifisme, il y avait cette idée selon laquelle il ne fallait plus de guerre. Les gens n'étaient pas forcément du pacifisme, mais ils voulaient le désarmement, ils voulaient plus de guerre. Quoi. Voilà. Mais il y avait néanmoins des points de la population qui ont été brutalisés par la guerre. C'est particulièrement vrai en Europe centrale et en Europe orientale. Il y a notamment les groupes en Allemagne qui voulaient poursuivre la guerre sur le front oriental et qui voyait la menace posée par le bolchevisme comme étant la possibilité de continuer la guerre, la Silésie en Europe de l'Est. Là aussi, il y avait des éléments qui poussaient à la continuité de la guerre. Ces gens-là n'étaient pas simplement ceux qui ont été brutalisés pendant la guerre, parce qu'il y en a plein qui étaient trop jeunes pour avoir bien connu les choses, mais il en est sorti une idéologie qui émanait de la brutalisation. Et certains de ces gens, dont par exemple Hirse, qui ensuite a été à Auschwitz, et il disait que la violence était plus grande que tout ce que l'on a pu connaître pendant la guerre. Donc il y avait des gens comme cela. Donc la brutalisation, c'est une thèse juste, mais elle n'est pas entière, elle n'est pas complète. Et en Allemagne, le livre le plus populaire des années 20 était le livre pacifiste
À l'Est, rien de nouveau.
À l'Est, rien de nouveau. Et alors, dans les années 20, les éléments de pacifisme étaient également forts en Allemagne.
Comment faire quand une guerre est mondiale pour en extraire, c'est ce que vous faites, Yann Kershaw, même s'il y a beaucoup de percées dans d'autres espaces géographiques, en particulier les espaces coloniaux, pour pouvoir faire l'histoire de l'Europe séparée, d'une certaine façon, de ce qui se passe en dehors du continent européen. Ça ne doit pas être très simple de se dire « je construis une histoire de l'Europe pour aujourd'hui, pour expliquer d'où vient l'Europe que nous connaissons, comme vous nous l'avez dit au départ, mais d'une certaine façon, je suis obligé de limiter mon objet parce que je ne peux pas parler de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe au Japon, de ce qui se passe sur le continent américain. »
Oui, c'est un défi auquel sont confrontés tous les historiens lorsqu'ils se mettent à écrire sur le XXe siècle. Si vous écrivez l'histoire de la France au XXe siècle, eh bien évidemment, il faut tenir compte des expériences coloniales, mais il faut quand même fixer un périmètre d'études. Eh bien, pour l'Europe en enfer, j'ai dû évidemment pour prendre les effets de la colonisation, la participation de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays dans les expériences coloniales et cette soif d'empire en Italie et en Allemagne, empire que les Allemands ont ensuite considéré comme ayant toute sa place en Europe ou pas en Afrique ou ailleurs. Mais en étant conscient des événements dehors de l'Europe, j'ai voulu quand même écrire une histoire de l'Europe, tout en intégrant certains facteurs qui pourraient avoir une incidence, un retentissement sur l'Europe. Mais évidemment, il a fallu que je sois très prudent. Dans le deuxième volume sur lequel je travaille à l'actuel, eh bien, les éléments de la colonisation et de la décolonisation jouent un rôle plus important. Par ailleurs, la mondialisation, l'impact, le retentissement mondial était progressif. On le sent bien plus après la Seconde Guerre mondiale qu'après la Première Guerre mondiale. Vous voyez ? Donc, de ce point de vue-là, il y a une espèce de progression dans la mondialisation de l'Europe du point de vue des conflits. Et c'est là que je dois donc écrire un deuxième volume pour tenir compte de ces éléments que je n'ai pas pu intégrer dans celui-ci.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous consacrez une partie de cet ouvrage, L'Europe en enfer, aux questions nées de la culture pendant l'entre-deux-guerres en particulier. Et vous nous expliquez effectivement comment, selon vous, la culture haute, la culture élitiste, pourrait-on dire, et la culture populaire qui aurait pu peut-être à un moment ou à un autre se rapprocher, puisque la guerre avait tout chamboulé, avait tout renversé d'une certaine façon, ne parviennent pas à faire la jonction qu'il y a un cinéma populaire et un cinéma d'avant-garde et d'élite, qu'il y a un art populaire et un art d'élite, et que tout compte fait, eh bien, dans les classifications politiques, les classes allemandes favorisées, par exemple, commencent à détester la culture venant d'outre-Atlantique et donc la culture du métissage représentée par Hollywood et par les artistes venant de l'autre côté de l'Atlantique, Ian Kershaw.
Une grande partie de la réponse, on la trouve dans l'éducation. L'éducation était limitée à un petit pan de la population, et ce, dans la plupart des pays. Il s'agissait donc d'une population qui était attirée par l'art ou la littérature d'avant-garde, et la culture plus élevée au sens étriqué du terme. La culture populaire, à ce moment-là, avec tous les éléments que cela peut intégrer, ne faisait pas l'objet d'un attrait particulier pour l'élite. Donc c'est vrai qu'il y avait là un clivage. Il y avait la culture populaire qui plaisait aux masses, mais cela, évidemment, ne plaisait pas aux gens qui s'intéressaient à l'art d'avant-garde ou à la littérature. Donc cela commence à se déliter à la faveur des retentissements du cinéma. Et dans l'entre-deux-guerres, il y avait évidemment Hollywood qui était en plein essor, et les investissements capitaux étaient bien plus importants qu'en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, et l'Europe a commencé à être inondée par le cinéma hollywoodien après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, ce processus est allé encore plus loin et les limites culturelles entre la culture populaire et la culture dite élitiste commencent à être de plus en plus floues. Mais dans cette première moitié du XXe siècle, le clivage est le résultat des divisions auxquelles on assiste, notamment en matière d'éducation.
Alors, il y a une phrase que j'ai retenue à la page 179 de votre livre, qui est une phrase importante, je crois, puisqu'elle permet de faire le lien entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être de ne pas faire le lien entre la Première et la Seconde, comme parfois on le fait. Vous dites qu'il n'y a pas de cordon ombilical qui rattache la Seconde Guerre mondiale à la Première, parce que, dites-vous, les choses auraient pu tourner autrement. Expliquez-nous votre vision justement de ce lien entre la Première et la Seconde Guerre mondiale qui est assez original et assez important pour vous.
Il n'y a pas de cordon ombilical, dis-je. Je dis cela parce que l'histoire, c'est une aventure ouverte. Il n'y a pas de fait déterminé les uns par les autres. Il y a bien des moments où les choses auraient pu tourner différemment. Par exemple, à l'évidence, l'avènement au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, évidemment, la Seconde Guerre mondiale était bien plus vraisemblable. Et c'est devenu une certitude dans l'espace de peu de mois.
Et
Hitler a saisi le pouvoir, mais ce n'était pas inévitable avant que ça ait lieu. Donc il y a différents moments où l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. Mais en même temps, je dis qu'il n'y a pas de cordon ombilical entre les deux grandes guerres, mais il est possible de concevoir que la Seconde Guerre mondiale est en fait la fin du boulot de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, il fallait la faire pour défaire les résultats de la Première Guerre mondiale. Là, je vous parle du point de vue allemand. Le retentissement de la Première Guerre mondiale était tel que la Seconde Guerre mondiale était plus vraisemblable que l'absence d'une Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, j'ai cette approche double. Il n'y a pas de cordon ombilical entre les deux guerres. La tournure n'était pas inévitable, mais en même temps, il était quand même assez probable qu'il y aurait une seconde conflagration, étant donné les résultats et les retentissements de la Première Guerre, de la Grande Guerre.
Alors, j'ai trouvé deux fois, mais je ne sais pas si c'est... Il y a sûrement plus d'occurrences de ce mot. Le mot « démagogue » que vous utilisez. Une fois, ce mot est appliqué à Hitler, dont vous dites qu'il est une tête brûlée, raciste et nationaliste, au remarquable talent de démagogue. Et une autre fois, vous l'appliquez à Trotsky, organisateur de talent doublé d'un démagogue qui prône la révolution permanente. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi Hitler et Trotsky sont selon vous des démagogues et qu'est-ce que vous entendez par ce terme de démagogue appliqué à ces deux personnages.
Démagogue, c'est un orateur qui peut plaire aux masses, il plaît à la plupart des gens et de manière frappante. On dit populiste aujourd'hui, mais ce terme populiste est quelque peu galvaudé, parce que populiste, étymologiquement, ça ne fait pas penser à une connotation idéologique. Hitler était un démagogue de droite et il... C'était l'anathème de Trotsky. Trotsky, lui, il plaisait aux masses, mais pas de droite. Trotsky savait parler en public. Il savait retenir l'attention des gens à gauche en Russie. Et sa forme de populisme à Trotsky était était un populisme qui était radicalement différent à ce à quoi on assistait en Allemagne, en Italie et ailleurs dans les années 30. Mais le terme démagogue, on peut l'utiliser pour simplement décrire une personne qui a un talent de tribun et qui sait faire en sorte que les sentiments populaires aillent dans le sens de ses intérêts. Donc Hitler et Trotsky étaient à cet égard particulièrement habiles.
Alors que Staline, dites-vous, n'était pas un démagogue dans le sens que vous utilisez aujourd'hui. Vous dites qu'il était entouré de larbins, d'opportunistes et de sycophantes qui, d'une certaine façon, le laissaient faire ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire terroriser sa population.
Oui, Staline n'était pas démagogue. Staline était un organisateur très talentueux. C'était un homme qui savait manier les leviers du pouvoir. Il n'était pas un très bon orateur, Staline. Et les gens qui ont assisté à des discours de Staline ne disaient pas qu'il était électrisant. Par la suite, évidemment, la déification de Staline dans l'idéologie soviétique a signifié qu'il demandait aux gens d'applaudir dès qu'il montait sur scène. Les gens applaudissaient un quart d'heure après la fin de son discours. Mais Staline, ce n'est pas quelqu'un qui produisait un soutien spontané de la part des masses. C'est pas quelqu'un qui maniait si bien la langue ou la prise de parole publique aussi bien qu'un Trotsky ou qu'un Hitler. Staline, lui, son secret, c'était bien savoir manier les leviers du pouvoir. Pouvoir qu'il a, évidemment, très talentueusement exploité par la suite.
Alors, on a commencé en évoquant la question des Arméniens et des massacres d'Arméniens au début du siècle. Vous dites que la guerre à l'Est était génocidaire et qu'elle avait été préparée dans cet esprit, ce qui est très intéressant parce que ça relie cette émission d'aujourd'hui avec vous, Yann Kershaw, avec l'émission de demain que nous aurons avec Timothy Snyder et Christian Ingrau, qui travaillent justement tous les deux sur cette guerre à l'Est. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
What I mean by this is really that in the case of the planning
of the Second World War, de la planification de la Seconde Guerre mondiale,
the massacre or the elimination, in the way the Germans put it, of large sections of the population was taken for granted.
L'élimination, comme diraient les Allemands, d'une partie de la population était prise pour acquise, disons, en quelque sorte. La Seconde Guerre mondiale était génocidaire, alors que la Première Guerre mondiale ne l'était pas. Dans la planification pour l'Europe de l'Est, il y a cette notion qu'il y aura de très nombreux Slaves. Là, je ne vous parle pas forcément des Juifs. Un grand nombre de Slaves allaient mourir parce qu'ils n'auraient pas de quoi manger. L'alimentation irait aux Allemands. Il y aurait des millions de gens qui seraient affamés en Europe de l'Est. En 1941, lorsqu'il y a l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, les SS avaient mis au point leur plan général pour l'Est. Autrement dit, dans les 25 ans à venir, eh bien, il y aurait 30 millions de Slaves que l'on aurait sortis de leur territoire. La plupart auraient trouvé la mort, et la raison génocidaire préside à cela. Et lorsqu'on prend la question des Juifs, eh bien, l'idéologie nazie dès le début, c'était lié au besoin de se défaire des Juifs. Hitler en avait parlé dès le début. Il faut retirer les Juifs. Retirer, ça veut dire retirer de la vie ou éliminer. On peut interpréter ça de différentes façons, mais ça veut dire retirer les Juifs de ces régions d'Europe de l'Est, où ils étaient particulièrement nombreux, 3 millions et quelques en Pologne, par exemple. Donc les 6 millions en Russie occidentale, et ces gens-là, eh bien, il fallait les retirer. Et évidemment, c'est devenu une extermination physique en l'espace d'un ou deux ans. Donc il y avait un dessein génocidaire dans la Seconde Guerre mondiale. Donc le génocide et la géopolitique étaient liés.
Alors, vous nous avez dit au début que si vous vous lanciez dans cette énorme entreprise éditoriale, Yann Kershaw, c'était pour mieux comprendre le présent et l'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous êtes en train d'écrire la suite de cet ouvrage qui va venir jusqu'à maintenant. Je ne peux pas ne pas vous poser une question en tant que Britannique sur ce qui est en train de se passer à propos de cette Europe et de ce détachement progressif peut-être, ou un peu plus rapide, de la Grande-Bretagne, de cette structure en tout cas politique européenne, Yann Kershaw.
Well, Brexit, we could devote an entire program.
Le Brexit, mais il faut faire une autre émission.
But Brexit is a catastrophe.
Le Brexit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la Grande-Bretagne, pour le projet européen. Ça ne signifie pas que l'Europe va se déliter. Mais la Grande-Bretagne, c'est mon pays. Et je dois dire que c'est une évolution déplorable. La Grande-Bretagne a décidé de suivre cette voie et cela m'attriste. Et aujourd'hui, le gouvernement britannique va encore plus loin dans ce divorce d'avec l'Union européenne, un Brexit dur, quitter même le marché unique, c'est envisagé. Donc du point de vue de la Grande-Bretagne, ça signifie que tout a été mis en place pendant 40 ans pour une meilleure intégration avec avec l'Union européenne, et ça, on décide du jour au lendemain de casser. Alors, l'Union européenne va survivre sans la Grande-Bretagne, certes, mais le projet européen va souffrir. Un pays veut quitter cette grande idée de projet européen, une intégration de l'ensemble de l'Europe. Eh bien, la Grande-Bretagne balaye cela d'un revers de la main, et je dois dire que cette période que nous vivons est particulièrement triste en Europe.
On dit souvent qu'on ne fait d'histoire que contemporaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit cette histoire. Vous aurez écrit le premier tome de cette longue histoire de l'Europe au XXe siècle, avant le Brexit, et vous aurez écrit le deuxième tome après le Brexit. Est-ce que ça changera la nature de votre vision et la nature de votre projet, Yann Kershaw, pour terminer ?
I think what it does is to highlight the,
je crois que le Brexit met en exergue pas simplement les étapes à court terme qui ont mené au Brexit, mais la perspective que l'on a en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et les années 70 sont particulièrement importantes. Il y a le néolibéralisme économique, son émergence, il y a l'euphorie qui suit la fin du communisme. Ça, évidemment, ça a été très bref, et puis après on arrive à la crise du capitalisme mondialisé avec la crise financière, la crise bancaire de 2008. Je crois que la crise financière de 2008, le Brexit sont liés, et la crise bancaire de 2008 est liée aux différentes évolutions auxquelles on assiste en Europe aujourd'hui, la politique anti-établissement, la paupérisation de la population, le clivage entre la droite et la gauche, le vote anti-establishment en Grèce ou en Espagne ou dans d'autres, donc là on est vers la gauche, et dans d'autres pays un virage à droite. Depuis 2008 nous sommes en crise permanente, et le Brexit c'est l'expression britannique de cette crise permanente, et je dois dire que c'est une fin quelque peu déprimante à cette entreprise en deux volumes que j'ai entreprise. Donc oui, bon, ça c'est comme ça, mais moi je n'y peux rien.
Merci beaucoup Yann Kershaw d'être venu, et merci encore à Xavier Combe d'avoir assuré la traduction pour cet entretien en direct ici dans les studios de Radio France. Je rappelle que vous êtes auteur de L'Europe en enfer 1914-1949 qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil, et que vous êtes en train d'écrire le suivant, la suite de cette histoire qu'on attendra pour d'ici quelques années peut-être, il faudra plusieurs années pour l'écrire, j'imagine, pour le deuxième tome.
Great pleasure to be here. I hope we can do it again.
Merci beaucoup. Oui, j'espère bien revenir bientôt.
Merci beaucoup, Yann Kershaw. Et je rappelle à nos auditeurs que nous continuons demain notre série sur la guerre et ses raisons, en recevant donc enregistrés. Ils ont été enregistrés à Blois lors des rendez-vous de l'histoire. Un dialogue donc entre Timothy Snyder et Christian Ingrao sur ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Et nous terminons par un titre de Joséphine Baker qui date de 1949, la fin de cet ouvrage, la fin chronologique de cet ouvrage.
Revoir Paris, revoir brusquement son enchantement, ça me fait vraiment quelque chose. Car sans Paris, la Seine et les quais et la Motte Piquée, je sens qu'il me manquait trop de choses. Pour dire chérie, dans d'autres pays, on s'écrit ma dire, mais ça ne veut pas dire la même chose.
Revoir Paris de Joséphine Baker, un titre de 1949, pour conclure cette émission avec Yann Kershaw, une émission qui, comme d'habitude, était préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Jean-Frédéric était avec nous à la technique, et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou la réécouter, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, à discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou à nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC. Merci à tous.